Madame, mademoiselle, monsieur, chers amis, et vous, mes très chères sœurs et frères en philosophie, soyez les bienvenus sur Radio Kardec. Pour cette nouvelle émission, notre sœur Marie-Claude Savard du Centre d'études Alain Kardec, Paix et Amour de Québec au Canada, poursuivra avec nous la lecture de l'Évangile selon le spiritisme. Cette lecture sera immédiatement suivie par un rappel du communiqué de l'Union Spirit Belge ainsi que de l'agenda des activités prévues en Belgique et en France. Nous incitons chacun et chacune à participer par des commentaires sur nos émissions ou pour nous proposer des sujets. Vous pouvez nous laisser un message sur notre boîte vocale en formant depuis la Belgique le 04 227 60 76 ou le 032 4 227 60 76 au départ de la France et 0352 4 227 60 76 au départ du Grand-Duché de Luxembourg ou tout simplement consulter notre site internet. Mais dans l'immédiat, nous vous souhaitons à toutes et à tous une très bonne écoute. Aujourd'hui, notre sœur Marie-Claude nous invite à poursuivre la lecture de l'Évangile selon le spiritisme. Chapitre 6, le Christ consolateur.
Chapitre 6, le Christ consolateur. Le joug léger. Venez à moi, vous tous qui êtes affligés et qui êtes chargés, et je vous soulagerai. Prenez mon joug sur vous, et apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos de vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Saint Matthieu, chapitre 11, versets 28, 29, 30. Toutes les souffrances, misères, déceptions, douleurs physiques, pertes d'êtres chéris, trouvent leur consolation dans la foi en l'avenir, dans la confiance en la justice de Dieu, que le Christ est venu enseigner aux hommes. Sur celui, au contraire, qui n'attend rien après cette vie, ou qui doute simplement, les afflictions pèsent de tout leur poids, et nulle espérance ne vient en adoucir l'amertume. Voilà ce qui fait dire à Jésus, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et je vous soulagerai. » Cependant, Jésus met une condition à son assistance et à la félicité qu'il promet aux affligés. Cette condition est dans la loi qu'il enseigne. Son joug est l'observation de cette loi, mais ce joug est léger et cette loi est douce, puisqu'il impose pour devoir l'amour et la charité. Consolateur promis. Si vous m'aimez, gardez mes commandements, et je prierai mon Père. Et il vous enverra un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et qu'il ne le connaît point. Mais pour vous, vous le connaîtrez, parce qu'il demeurera avec vous et qu'il sera en vous. Mais le Consolateur, qui est le Saint-Esprit, que mon Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous fera ressouvenir de tout ce que je vous ai dit. Saint Jean, chapitre 14, versets 15, 16, 17, 26. Jésus promet un autre consolateur, c'est l'Esprit de vérité, que le monde ne connaît point encore, parce qu'il n'est pas mûr pour le comprendre, que le Père enverra pour enseigner toutes choses et pour faire souvenir de ce que Christ a dit. Si donc l'Esprit de vérité doit venir plus tard enseigner toutes choses, c'est que Christ n'a pas tout dit. S'il vient faire souvenir de ce que Christ a dit, c'est qu'on l'aura oublié ou mal compris. Le spiritisme vient au temps marqué accomplir la promesse du Christ. L'Esprit de vérité préside à son établissement. Il rappelle les hommes à l'observance de la loi. Il enseigne toutes choses en faisant comprendre ce que le Christ n'a dit qu'en parabole. Le Christ a dit « Que ceux-là entendent qui ont des oreilles pour entendre ». Le spiritisme vient ouvrir les yeux et les oreilles, car il parle sans figure et sans allégorie. Il lève le voile laissé à dessein sur certains mystères. Il vient enfin apporter une suprême consolation aux déshérités de la terre et à tous ceux qui souffrent, en donnant une cause juste et un but utile à toutes les douleurs. Le Christ a dit « Bienheureux les affligés, parce qu'ils seront consolés. » Mais comment se trouver heureux de souffrir, si l'on ne sait pourquoi on souffre? Le spiritisme en montre la cause dans les existences antérieures et dans la destination de la terre où l'homme expie son passé. Il en montre le but en ce que les souffrances sont comme les crises salutaires qui amènent la guérison, et qu'elles sont l'épuration qui assure le bonheur dans les existences futures. L'homme comprend qu'il a mérité de souffrir, et il trouve la souffrance juste. Il sait que cette souffrance aide à son avancement, et il l'accepte sans murmure, comme l'ouvrier accepte le travail qui doit lui valoir son salaire. Le spiritisme lui donne une foi inébranlable dans l'avenir, et le doute poignant n'a plus de prise sur son âme, en lui faisant voir les choses d'en haut. L'importance des vicissitudes terrestres se perd dans le vaste et splendide horizon qu'il embrasse, et la perspective du bonheur qui l'attend lui donne la patience, la résignation et le courage d'aller jusqu'au bout du chemin. Ainsi, le spiritisme réalise ce que Jésus a dit du Consolateur promis. Connaissance des choses qui fait que l'homme sait d'où il vient, où il va et pourquoi il est sur la terre. Rappel au vrai principe de la loi de Dieu et consolation par la foi et l'espérance. Instruction des esprits. Avènement de l'esprit de vérité. Je viens, comme autrefois, parmi les fils égarés d'Israël, apporter la vérité et dissiper les ténèbres. Écoutez-moi. Le spiritisme, comme autrefois ma parole, doit rappeler aux incrédules qu'au-dessus d'eux règne d'immuables vérités. Le Dieu bon, le Dieu grand, qui fait germer la plante et soulève les flots. J'ai révélé la doctrine divine. J'ai, comme un moissonneur, lié en gerbe le bien épars dans l'humanité, et j'ai dit « Venez à moi, vous tous qui souffrez. » Mais les hommes ingrats se sont détournés de la voie droite et large qui conduit au royaume de mon Père, et ils se sont égarés dans les âpres sentiers de l'impiété. Mon Père ne veut pas anéantir la race humaine. Il veut que, vous aidant les uns les autres, morts et vivants, c'est-à-dire morts selon la chair, car la mort n'existe pas, vous vous secouriez, et que, non plus la voix des prophètes et des apôtres, mais la voix de ceux qui ne sont plus, se fasse entendre pour vous crier. Priez et croyez. Car la mort, c'est la résurrection et la vie. C'est l'épreuve choisie pendant laquelle vos vertus cultivées doivent grandir et se développer comme le cèdre. Homme faible, qui comprenez les ténèbres de vos intelligences. N'éloignez pas le flambeau que la clémence divine place entre vos mains pour éclairer votre route et vous ramener, enfant perdu dans le giron de votre Père. Je suis trop touché de compassion pour vos misères, pour votre immense faiblesse, pour ne pas tendre une main secourable aux malheureux égarés qui, voyant le ciel, tombent dans l'abîme de l'erreur. Croyez, aimez, méditez les choses qui vous sont révélées. Ne mêlez pas l'ivraie au bon grain, les utopies aux vérités. Spirit, aimez-vous, voilà le premier enseignement. Instruisez-vous, voilà le second. Toute vérité se trouve dans le christianisme. Les erreurs qui y ont pris racine sont d'origine humaine. Et voilà qu'au-delà du tombeau que vous croyez le néant, des voix vous crient, frères, rien ne périt. Jésus-Christ est le vainqueur du mal, soyez les vainqueurs de l'impiété. L'Esprit de vérité, Paris, 1860. Je viens enseigner et consoler les pauvres déshérités. Je viens leur dire qu'ils élèvent leur résignation au niveau de leurs épreuves, qu'ils pleurent, car la douleur a été sacrée au jardin des oliviers, mais qu'ils espèrent, car les anges consolateurs viendront aussi essuyer leurs larmes. Ouvriers, tracez votre sillon. Recommencez le lendemain la rude journée de la veille. Le labeur de vos mains fournit le pain terrestre à vos corps, mais vos âmes ne sont pas oubliées. Et moi, le divin jardinier, je les cultive dans le silence de vos pensées. Lorsque l'heure du repos aura sonné, lorsque la trame s'échappera de vos mains et que vos yeux se fermeront à la lumière, vous sentirez sourdre et germer en vous ma précieuse semence. Rien n'est perdu dans le royaume de notre Père, et vos sueurs, vos misères, forment le trésor qui doit vous rendre riche dans les sphères supérieures, où la lumière remplace les ténèbres, et où le plus dénué de vous tous sera peut-être le plus resplendissant. Je vous le dis en vérité, ceux qui portent leur fardeau et qui assistent leurs frères sont mes bien-aimés. Instruisez-vous dans la précieuse doctrine qui dissipe l'erreur des révoltes et qui vous enseigne le but sublime de l'épreuve humaine. Comme le vent balaie la poussière, que le souffle des esprits dissipe vos jalousies contre les riches du monde, qui sont souvent très misérables, car leurs épreuves sont plus périlleuses que les vôtres. Je suis avec vous, et mon apôtre vous enseigne. Buvez à la source vive de l'amour, et préparez-vous, captifs de la vie, à vous élancer un jour libre et joyeux dans le sein de celui qui vous a créé faible pour vous rendre perfectible, et qui veut que vous façonniez vous-même votre molle argile, afin d'être les artisans de votre immortalité. L'Esprit de vérité, Paris, 1861. Je suis le grand médecin des âmes, et je viens vous apporter le remède qui doit les guérir. Les faibles, les souffrants et les infirmes sont mes enfants de prédilection, et je viens les sauver. Venez donc à moi, vous tous qui souffrez et qui êtes chargés, et vous serez soulagés et consolés. Ne cherchez pas ailleurs la force et la consolation, car le monde est impuissant à les donner. Dieu fait à vos cœurs un appel suprême par le spiritisme. Écoutez-le. Que d'impiété, le mensonge, l'erreur, l'incrédulité soient extirpés de vos âmes endolories. Ce sont des monstres qui s'abreuvent de votre sang le plus pur et qui vous font des plaies presque toujours mortelles. Qu'à l'avenir, humble et soumis au Créateur, vous pratiquiez sa loi divine. Aimez et priez, soyez dociles aux esprits du Seigneur, invoquez-le du fond du cœur. Alors il vous enverra son Fils bien-aimé pour vous instruire et vous dire ses bonnes paroles. Me voilà, je viens à vous, parce que vous m'avez appelé. L'Esprit de vérité, Bordeaux, 1861. Dieu console les humbles et donne la force aux affligés qui la lui demandent. Sa puissance couvre la terre, et partout à côté d'une larme, il a placé un baume qui console. Le dévouement et l'abnégation sont une prière continuelle et renferment un enseignement profond. La sagesse humaine réside dans ces deux mots. Puissent tous les esprits souffrants comprendre cette vérité. Au lieu de se récrier contre les douleurs, les souffrances morales qui sont ici-bas votre lot, prenez donc pour devise ces deux mots, dévouement et abnégation, et vous serez fort, parce qu'il résume tous les devoirs que vous imposent la charité et l'humilité. Le sentiment du devoir accompli vous donnera le repos de l'esprit et la résignation. Le cœur bat mieux, l'âme se calme, et le corps n'a plus de défaillance, car le corps souffre d'autant plus que l'esprit est plus profondément atteint. L'Esprit de vérité, Le Havre, 1863.
Terminons notre lecture du jour par le chapitre 7 de l'Évangile selon le spiritisme. Bienheureux les pauvres d'esprit.
Chapitre 7. Bienheureux les pauvres d'esprit. Ce qu'il faut entendre par les pauvres d'esprit. Bienheureux les pauvres d'esprit, parce que le royaume des cieux est à eux. Saint Matthieu, chapitre 5, verset 3. L'incrédulité s'est égayé sur cette maxime. Bienheureux les pauvres d'esprit, comme sur beaucoup d'autres choses, sans la comprendre. Par les pauvres d'esprit, Jésus n'entend pas les hommes dépourvus d'intelligence, mais les humbles. Il dit que le royaume des cieux est pour eux et non pour les orgueilleux. Les hommes de science et d'esprit, selon le monde, ont généralement une si haute opinion d'eux-mêmes et de leur supériorité qu'ils regardent les choses divines comme indignes de leur attention. Leurs regards concentrés sur leur personne ne peuvent s'élever jusqu'à Dieu. Cette tendance à se croire au-dessus de tout ne les porte que trop souvent à nier ce qui est en au-dessus d'eux pourrait les rabaisser, à nier même la divinité. Ou s'ils consentent à l'admettre, il lui conteste un de ses plus beaux attributs, son action providentielle sur les choses de ce monde, persuadé qu'eux seuls suffisent pour le bien gouverner. Prenant leur intelligence pour la mesure de l'intelligence universelle et se jugeant aptes à tout comprendre, ils ne peuvent croire à la possibilité de ce qu'ils ne comprennent pas. Quand ils ont prononcé, leur jugement est pour eux sans appel. S'ils refusent d'admettre le monde invisible et une puissance extra-humaine, ce n'est pas cependant que cela soit au-dessus de leur portée. Mais c'est que leur orgueil se révolte à l'idée d'une chose au-dessus de laquelle ils ne peuvent se placer, et les ferait descendre de leur piédestal. C'est pourquoi ils n'ont que des sourires de dédain pour tout ce qui n'est pas du monde visible et tangible. Ils s'attribuent trop d'esprit et de science pour croire à des choses bonnes, selon eux, pour les gens simples, tenant ceux qui les prennent au sérieux pour des pauvres d'esprit. Cependant, quoi qu'ils en disent, il leur faudra entrer, comme les autres, dans ce monde invisible qu'ils tournent en dérision. C'est là que leurs yeux seront ouverts et qu'ils reconnaîtront leur erreur. Mais Dieu, qui est juste, ne peut recevoir au même titre qui a méconnu sa puissance et celui qui s'est humblement soumis à ses lois, ni leur faire une part égale. En disant que le royaume des cieux est au simple, Jésus entend que nul n'y est mis sans la simplicité du cœur et l'humilité de l'esprit, que l'ignorant qui possède ces qualités sera préféré au savant qui croit plus en lui qu'en Dieu. En toutes circonstances, il place l'humilité au rang des vertus qui rapprochent de Dieu, et l'orgueil parmi les vices qui en éloignent. Et cela par une raison très naturelle, c'est que l'humilité est un acte de soumission à Dieu, tandis que l'orgueil est une révolte contre lui. Mieux vaut donc, pour le bonheur futur de l'homme, être pauvre en esprit dans le sens du monde et riche en qualité morale. Quiconque s'élève sera abaissé. En ce même temps, les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent : Qui est le plus grand dans le royaume des cieux ? Jésus, ayant appelé un petit enfant, le mit au milieu d'eux et leur dit : Je vous dis en vérité que si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme de petits enfants, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Quiconque donc s'humiliera et se rendra petit comme cet enfant, celui-là sera le plus grand dans le royaume des cieux. Et quiconque reçoit en mon nom un enfant tel que je viens de dire, c'est moi-même qu'il reçoit. C'est Matthieu, chapitre 18, versets 1 à 5. Alors, la mère des enfants de Zébédée s'approcha de lui avec ses deux fils, et l'adora en lui témoignant qu'elle voulait lui demander quelque chose. Il lui dit, « Que voulez-vous ? » ?»« Ordonnez, lui dit-elle, que mes deux fils que voici soient assis dans votre royaume, l'un à votre droite et l'autre à votre gauche. » Mais Jésus leur répondit, « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire le calice que je vais boire ?» Ils lui dirent, « Nous le pouvons. » Il leur répondit, « Il est vrai que vous boirez le calice que je boirai, mais pour ce qui est d'être assis à ma droite ou à ma gauche, ce n'est pas à moi à vous le donner, mais ce sera pour ceux à qui mon Père l'a préparé. » Les 10 autres apôtres, ayant entendu ceci, en conçurent de l'indignation contre les deux frères. Et Jésus, les ayant appelés à lui, leur dit, « Vous savez que les princes des nations les dominent, et que les grands les traitent avec empire. Il n'en doit pas être de même parmi vous, mais que celui qui voudra devenir le plus grand soit votre serviteur, et que celui qui voudra être le premier d'entre vous soit votre esclave. Comme le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie pour la rédemption de plusieurs. » Saint Matthieu, chapitre 20, versets de 20 à 28. Jésus entra un jour de sabbat dans la maison d'un des principaux pharisiens pour y prendre son repas, et ceux qui étaient là l'observaient. Alors, considérant comme les conviés choisissaient les premières places, il leur proposa cette parabole et leur dit, « Quand vous serez conviés à des noces, n'y prenez point la première place, de peur qu'il ne se trouve parmi les conviés une personne plus considérable que vous. et que celui qui vous aura invité ne vienne vous dire « Donnez votre place à celui-ci » et qu'alors vous ne soyez réduit à vous tenir avec honte au dernier lieu. Mais quand vous aurez été convié, allez vous mettre à la dernière place, afin que, lorsque celui qui vous a convié sera venu, il vous dise « Mon ami, montez plus haut », et alors ce sera un sujet de gloire devant ceux qui seront à table avec vous. Car quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé. » Saint Luc, chapitre 14, versets 1 et de 7 à 11. Ces maximes sont les conséquences du principe d'humilité que Jésus ne cesse de poser comme condition essentielle de la félicité promise aux élus du Seigneur, et qu'il a formulé par ses paroles « Bienheureux les pauvres d'esprit, parce que le royaume des cieux est à eux. » Il prend un enfant comme type de la simplicité du cœur et il dit « Celui-là sera le plus grand dans le royaume des cieux, qui s'humiliera et se fera petit comme un enfant. » C'est-à-dire qu'il n'aura aucune prétention à la supériorité ou à l'infaillibilité. La même pensée fondamentale se retrouve dans cette autre maxime. Que celui qui voudra devenir le plus grand soit votre serviteur, et dans celui-ci, quiconque s'abaisse sera élevé, et quiconque s'élève sera abaissé. Le spiritisme vient sanctionner la théorie par l'exemple, en nous montrant grand, dans le monde des esprits, ceux qui étaient petits sur la terre, et souvent bien petits ceux qui étaient les plus grands et les plus puissants. C'est que les premiers ont emporté en mourant ce qui seul fait la véritable grandeur dans le ciel et ne se perd pas, les vertus, tandis que les autres ont dû laisser ce qui faisait leur grandeur sur la terre et ne s'emportent pas, la fortune, les titres, la gloire, la naissance. N'ayant rien autre chose, ils arrivent dans l'autre monde dépourvus de tout, comme des naufragés qui ont tout perdu, jusqu'à leurs vêtements. Ils n'ont conservé que l'orgueil qui rend leur nouvelle position plus humiliante, car ils voient au-dessus d'eux et resplendissant de gloire ceux qu'ils ont foulés aux pieds sur la terre. Le spiritisme nous montre une autre application de ce principe dans les incarnations successives où ceux qui ont été les plus élevés dans une existence sont abaissés au dernier rang dans une existence suivante. S'ils ont été dominés par l'orgueil et l'ambition, ne cherchez donc point la première place sur la terre, ni à vous mettre au-dessus des autres. Si vous ne voulez pas être obligé de descendre, cherchez au contraire la plus humble et la plus modeste, car Dieu saura bien vous en donner une plus élevée dans le ciel si vous la méritez. Mystère caché aux sages et aux prudents. Alors Jésus dit ces paroles. « Je vous rends gloire, mon Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que vous avez caché ces choses aux sages et aux prudents, et que vous les avez révélées aux simples et aux petits. » Saint Matthieu, chapitre 11, verset 25. Il peut paraître singulier que Jésus rende grâce à Dieu d'avoir révélé ces choses aux simples et aux petits, qui sont les pauvres d'esprit, et de les avoir cachées aux sages et aux prudents, plus aptes en apparence à les comprendre. C'est qu'il faut entendre par les premiers, les humbles qui s'humilient devant Dieu, et ne se croient pas supérieurs à tout le monde, et par les seconds, les orgueilleux, vains de leur science mondaine, qui se croient prudents parce qu'ils nient, traitant Dieu d'égal à égal quand il ne le désavoue pas. Car dans l'Antiquité, sage était synonyme de savant. C'est pourquoi Dieu leur laisse la recherche des secrets de la terre et révèle ceux du ciel aux simples et aux humbles qui s'inclinent devant lui. Ainsi en est-il aujourd'hui des grandes vérités révélées par le spiritisme. Certains incrédules s'étonnent que les esprits fassent si peu de frais pour les convaincre. C'est que ces derniers s'occupent de ceux qui cherchent la lumière de bonne foi et avec humilité, de préférence à ceux qui croient posséder toute la lumière et semblent penser que Dieu devrait être trop heureux de les ramener à lui en leur prouvant qu'il existe. La puissance de Dieu éclate dans les plus petites choses comme dans les plus grandes. Il ne met pas la lumière sous le boisseau, puisqu'il la répand à flot de toutes parts. Aveugle donc ceux qui ne la voient pas. Dieu ne veut pas leur ouvrir les yeux de force, puisqu'il leur plaît de les tenir fermés. Leur tour viendra, mais il faut auparavant qu'ils sentent les angoisses des ténèbres et reconnaissent Dieu, et non le hasard dans la main qui frappe leur orgueil. Il emploie pour vaincre l'incrédulité les moyens qui lui conviennent selon les individus. Ce n'est pas à l'incrédule de lui prescrire ce qu'il doit faire et de lui dire « Si vous voulez me convaincre, il faut vous y prendre de telle ou telle façon, à tel moment plutôt qu'à tel autre, parce que ce moment est à ma convenance. » Que les incrédules ne s'étonnent donc pas si Dieu et les esprits qui sont les agents de ses volontés ne se soumettent pas à leurs exigences. Qu'ils se demandent ce qu'ils diraient si le dernier de leurs serviteurs voulait s'imposer à eux. Dieu impose ses conditions et n'en subit pas. Il écoute avec bonté ceux qui s'adressent à lui avec humilité, et non ceux qui se croient plus que lui. Dieu, dira-t-on, ne pourrait-il les fermer personnellement par des signes éclatants, en présence desquels l'incrédule le plus endurci devrait s'incliner? Sans doute il le pourrait, mais alors où serait leur mérite? Et d'ailleurs, à quoi cela servirait-il? N'en voit-on pas tous les jours se refuser à l'évidence et même dire « Si je voyais, je ne croirais pas, parce que je sais que c'est impossible. » S'ils refusent de reconnaître la vérité, c'est que leur esprit n'est pas encore mûr pour la comprendre, ni leur cœur pour la sentir. L'orgueil est la tête qui obscurit leur vue. À quoi sert de présenter la lumière à un aveugle? Il faut donc d'abord guérir la cause du mal. C'est pourquoi, en médecin habile, il châtie premièrement l'orgueil. Il n'abandonne donc pas ses enfants perdus. Il sait que tôt ou tard, leurs yeux s'ouvriront, mais il veut que ce soit de leur propre volonté, et alors que, vaincus par les tourments de l'incrédulité, ils se jetteront d'eux-mêmes dans ses bras, et comme l'enfant prodigue, lui demanderont grâce. Instruction des esprits, l'orgueil et l'humilité. Que la paix du Seigneur soit avec vous, mes chers amis. Je viens vers vous pour vous encourager à suivre la bonne voie. Au pauvre esprit qui, autrefois, habitait la terre, Dieu donne mission de venir vous éclairer. Béni soit-il de la grâce qu'il nous accorde de pouvoir aider à votre amélioration. Que l'Esprit Saint m'éclaire et m'aide à rendre ma parole compréhensible et qu'il me fasse la grâce de la mettre à la portée de tous. Vous tous incarnés, qui êtes dans la peine et cherchez la lumière, que la volonté de Dieu me soit en aide pour la faire luire à vos yeux. L'humilité est une vertu bien oubliée parmi vous. Les grands exemples qui vous en ont été donnés sont bien peu suivis. Et pourtant, sans l'humilité, pouvez-vous être charitable envers votre prochain? Oh non, car ce sentiment nivelle les hommes. Il leur dit qu'ils sont frères, qu'ils doivent s'entraider et les amène au bien. Sans l'humilité, vous vous parez des vertus que vous n'avez pas, comme si vous portiez un habit pour cacher les difformités de votre corps. Rappelez-vous celui qui nous sauva. Rappelez-vous son humilité qui l'a fait si grand et l'a mis au-dessus de tous les prophètes. L'orgueil est le terrible adversaire de l'humilité. Si le Christ promettait le royaume des cieux aux plus pauvres, c'est que les grands de la terre se figurent que les titres et les richesses sont des récompenses données à leur mérite, et que leur essence est plus pure que celle du pauvre. Ils croient que cela leur est dû, c'est pourquoi, lorsque Dieu la leur retire, ils l'accusent d'injustice. Ô dérision et aveuglement! Dieu fait-il une distinction entre vous par le corps? L'enveloppe du pauvre n'est-elle pas la même que celle du riche? Le Créateur a-t-il fait deux espèces d'hommes? Tout ce que Dieu fait est grand et sage. Ne lui attribuez jamais les idées qu'enfantent vos cerveaux orgueilleux. Ô riche, tandis que tu dors sous tes lambris dorés à l'abri du froid, ne sais-tu pas que des milliers de tes frères qui te valent sont gisants sur la paille? Le malheureux qui souffre de la faim n'est-il pas ton égal? À ce mot, ton orgueil se révolte, je le sais bien. Tu consentiras à lui donner l'aumône, mais à lui serrer fraternellement la main, jamais. Quoi, dis-tu, moi, issu d'un noble sang, grand de la terre, je serai l'égal de ce misérable qui porte des haillons? Vaine utopie des soi-disant philosophes, si nous étions égaux, pourquoi Dieu l'aurait-il placé si bas et moi si haut? Il est vrai que vos habits ne se ressemblent guère, mais que vous en soyez dépouillés tous deux, quelle différence y aura-t-il entre vous? La noblesse du sang, diras-tu, mais la chimie n'a point trouvé de différence entre le sang du grand seigneur et celui du plébien, entre celui du maître et celui de l'esclave. Qui te dit que, toi aussi, tu n'as pas été misérable et malheureux comme lui, que tu n'as pas demandé l'aumône, que tu ne la demanderas pas un jour à celui même que tu méprises aujourd'hui? Les richesses sont-elles éternelles? Ne finissent-elles pas avec ce corps enveloppe périssable de ton esprit? Oh, un retour d'humilité sur toi-même. Jette enfin les yeux sur la réalité des choses de ce monde, sur ce qui fait la grandeur et l'abaissement dans l'autre. Songe que la mort ne t'épargnera pas plus qu'un autre, que tes titres ne t'en préserveront pas, qu'elle peut te frapper demain, aujourd'hui, dans une heure, et si tu t'ensevelis dans ton orgueil, oh, alors je te plains, car tu seras digne de pitié. Orgueilleux, qu'étiez-vous avant d'être noble et puissant? Peut-être étiez-vous plus bas que le dernier de vos valets. Courbez donc vos fronts altiers que Dieu peut rabaisser au moment où vous les élevez le plus haut. Tous les hommes sont égaux dans la balance divine. Les vertus seules les distinguent aux yeux de Dieu. Tous les esprits sont d'une même essence, et tout le corps, les corps sont pétris de la même pâte. Vos titres et vos noms n'y changent rien. Ils restent dans la tombe, et ce ne sont pas eux qui donnent le bonheur parmi promis aux élus. La charité et l'humilité sont leurs titres de noblesse. Pauvre créature, tu es mère, tes enfants souffrent, ils ont froid, ils ont faim. Tu vas courber sous le poids de ta croix, t'humilier pour leur avoir un morceau de pain. Oh, je m'incline devant toi. Combien tu es noblement sainte et grande à mes yeux. Espère et prie. Le bonheur n'est pas encore de ce monde. Aux pauvres opprimés et confiants en lui, Dieu donne le royaume des cieux. Et toi, jeune fille, pauvre enfant voué au travail, aux privations, pourquoi ces tristes pensées? Pourquoi pleurer? Que ton regard s'élève pieux et serein vers Dieu. Aux petits oiseaux, il donne la pâture. Aie confiance en lui, et il ne t'abandonnera pas. Le bruit des fêtes, des plaisirs du monde fait battre ton cœur. Tu voudrais aussi orner ta tête de fleurs et te mêler aux heureux de la terre. Tu te dis que tu pourrais, comme ces femmes que tu regardes passer, folles et rieuses, être riche aussi. Oh, tais-toi, enfant, si tu savais combien de larmes et de douleurs sans nom sont cachées sous ces habits brodés. Combien de sanglots sont étouffés sous le bruit de cet orchestre joyeux. Tu préférerais ton humble retraite et ta pauvreté. Reste pur aux yeux de Dieu, si tu ne veux que ton ange gardien remonte vers lui, le visage caché sous ses ailes blanches, et te laisse avec tes remords, sans guide, sans soutien dans ce monde, où tu serais perdu en attendant que tu sois puni dans l'autre. Et vous tous, qui souffrez des injustices des hommes, soyez indulgents pour les fautes de vos frères, en vous disant que vous-même n'êtes pas sans reproche. C'est de la charité, mais c'est aussi de l'humilité. Si vous souffrez par les calomnies, courbez le front sous cette épreuve. Que vous importent les calomnies du monde? Si votre conduite est pure, Dieu ne peut-il vous en dédommager? Supportez avec courage les humiliations des hommes. C'est être humble et reconnaître que Dieu seul est grand et puissant. Ô mon Dieu, faudra-t-il que le Christ revienne une seconde fois sur cette terre pour apprendre aux hommes tes lois qu'ils oublient? Devra-t-il encore chasser les vendeurs du temple qui salissent ta maison, qui n'est qu'un lieu de prière? Et qui sait, ô homme, si Dieu vous accordait cette grâce, peut-être le renieriez-vous, comme autrefois. Vous l'appelleriez blasphémateur, parce qu'il abaisserait l'orgueil des pharisiens modernes. Peut-être lui feriez-vous recommencer le chemin du Golgotha. Lorsque Moïse fut sur le mont Sinaï recevoir les commandements de Dieu, le peuple d'Israël, livré à lui-même, délaissait le vrai Dieu. Hommes et femmes donnèrent leur or et leurs bijoux pour se faire une idole qu'ils adorèrent. Hommes civilisés, vous faites comme eux. Le Christ vous a laissé sa doctrine. Il vous a donné l'exemple de toutes les vertus. Et vous avez délaissé exemple et précepte. Chacun de vous apportant ses passions, vous vous êtes fait un dieu à votre gré, selon les uns, terrible et sanguinaire, selon les autres, insouciant des intérêts du monde. Le Dieu que vous vous êtes fait est encore le veau d'or que chacun approprie à ses goûts et à ses idées. Revenez à vous, mes frères, mes amis, que les voix des esprits touchent vos cœurs. Soyez généreux et charitables sans ostentation, c'est-à-dire faites le bien avec humilité. Que chacun démolisse peu à peu les autels que vous avez élevés à l'orgueil. En un mot, soyez de véritables chrétiens et vous aurez le règne de la vérité. Ne doutez plus de la bonté de Dieu, alors qu'il vous en donne tant de preuves. Nous venons préparer les voies pour l'accomplissement des prophéties. Lorsque le Seigneur vous donnera une manifestation plus éclatante de sa clémence, que l'envoyé céleste ne trouve plus en vous qu'une grande famille, que vos cœurs doux et humbles soient dignes d'entendre la parole divine qu'il viendra vous apporter, que l'élu ne trouve sur sa route qu'à les palmes déposées pour votre retour au bien, à la charité, à la fraternité, et alors votre monde deviendra le paradis terrestre. Mais si vous restez insensible à la voix des esprits envoyés pour épurer, renouveler votre société civilisée, riche en sciences et pourtant si pauvre en bons sentiments, hélas, il ne nous resterait plus qu'à pleurer et à gémir sur votre sort. Mais non, il n'en sera pas ainsi. Revenez à Dieu, votre Père, et alors nous tous, qui aurons servi à l'accomplissement de sa volonté, nous entonnerons le cantique d'action et de grâce pour remercier le Seigneur de son inépuisable bonté et pour le glorifier dans tous les siècles des siècles, ainsi soit-il. Lacordaire, Constantine, 1863. Homme, pourquoi vous plaignez-vous des calamités que vous avez vous-même amoncelées sur vos têtes? Vous avez méconnu la sainte et divine morale du Christ. Ne soyez donc pas étonnés que la coupe de l'iniquité est débordée de toutes parts. Le malaise devient général, à qui s'en prendre si ce n'est à vous qui cherchez sans cesse à vous écraser les uns les autres. Vous ne pouvez être heureux sans bienveillance mutuelle, et comment la bienveillance peut-elle exister avec l'orgueil? L'orgueil, voilà la source de tous vos maux. Attachez-vous donc à le détruire, si vous n'en voulez voir perpétuer les funestes conséquences. Un seul moyen s'offre à vous pour cela, mais ce moyen est infaillible. C'est de prendre pour règle invariable de votre conduite la loi du Christ, loi que vous avez ou repoussée ou faussée dans son interprétation. Pourquoi avez-vous en si grande estime ce qui brille et charme les yeux, plutôt que ce qui touche le cœur? Pourquoi le vice dans l'opulence est-il l'objet de vos adulations, alors que vous n'avez qu'un regard de dédain pour le vrai mérite dans l'obscurité? Qu'un riche débauché, perdu de corps et d'âme, se présente quelque part, toutes les portes lui sont ouvertes, tous les égards sont pour lui, tandis qu'on daigne à peine à accorder un salut de protection à l'homme de bien qui vit dans son travail. Quand la considération que l'on accorde aux gens est mesurée au poids de l'or qu'ils possèdent ou au nom qu'ils portent, quel intérêt peuvent-ils avoir à se corriger de leurs défauts? Il en serait tout autrement si le vice doré était fustigé par l'opinion comme le vice en haillon. Mais l'orgueil est indulgent pour tout ce qui le flatte. Siècle de cupidité et d'argent, dites-vous. Sans doute. Mais pourquoi avez-vous laissé les besoins matériels empiéter sur le bon sens et la raison? Pourquoi chacun veut-il s'élever au-dessus de son frère? Aujourd'hui, la société en subit les conséquences. Ne l'oubliez pas. Un tel état des choses est toujours un signe de décadence morale. Lorsque l'orgueil atteint les dernières limites, c'est l'indice d'une chute prochaine. Car Dieu frappe toujours les superbes. S'il les laisse parfois monter, c'est pour leur donner le temps de réfléchir et de s'amender sous les coups que, de temps à autre, ils portent à leur orgueil pour les avertir. Mais au lieu de s'abaisser, ils se révoltent. Alors, quand la mesure est comble, ils les renversent tout à fait, et leur chute est d'autant plus terrible qu'ils étaient montés plus haut. Pauvre race humaine, dont l'égoïsme a corrompu toutes les voies. Reprends courage, cependant. Dans sa miséricorde infinie, Dieu t'envoie un puissant remède à tes maux, un secours inespéré dans ta détresse. Ouvre les yeux à la lumière. Voici les âmes de ceux qui ne sont plus, qui viennent te rappeler à tes véritables devoirs. Ils te diront, avec l'autorité de l'expérience, combien les vanités et les grandeurs de votre passagère existence sont peu de choses auprès de l'éternité. Ils te diront que celui-là est le plus grand qui a été le plus humble parmi les petits d'ici-bas, que celui qui a le plus aimé ses frères est aussi celui qui sera le plus aimé dans le ciel, que les puissants de la terre, s'ils ont abusé de leur autorité, seront réduits à obéir à leurs serviteurs, que la charité et l'humilité, enfin, ces deux sœurs qui se donnent la main, sont les titres les plus efficaces pour obtenir grâce devant l'Éternel. Adolphe, évêque d'Alger, Marmande, 1862. Mission de l'homme intelligent sur la terre. Ne soyez pas fiers de ce que vous savez, car ce savoir a des bornes bien limitées dans le monde que vous habitez. Mais je suppose que vous soyez une des sommités intelligentes de ce globe, vous n'avez aucun droit d'en tirer vanité. Si Dieu, dans ses desseins, vous a fait naître dans un milieu où vous avez pu développer votre intelligence, c'est qu'il veut que vous en fassiez usage pour le bien de tous, car c'est une mission qu'il vous donne, en mettant dans vos mains l'instrument à l'aide duquel vous pouvez développer à votre tour les intelligences retardataires et les amener à Dieu. La nature de l'instrument n'indique-t-elle pas l'usage qu'on doit en faire? La bêche que le jardinier met entre les mains de son ouvrier ne lui montre-t-elle pas ce qu'il doit bêcher? Et que diriez-vous si cet ouvrier, au lieu de travailler, levait sa bêche pour en frapper son maître? Vous diriez que c'est affreux et qu'il mérite d'être chassé. Eh bien, n'en est-il pas de même de celui qui se sert de son intelligence pour détruire l'idée de Dieu et de la Providence parmi ses frères? N'élève-t-il pas contre son maître la bêche qui lui a été donnée pour défricher le terrain? A-t-il droit au salaire promis, et ne mérite-t-il pas, au contraire, d'être chassé du jardin? Il le sera, n'en doutez pas, et traînera des existences misérables et remplies d'humiliation jusqu'à ce qu'il se soit courbé devant celui à qui il doit tout. L'intelligence est riche de mérites pour l'avenir, mais à la condition d'en faire un bon emploi. Si tous les hommes qui en sont doués s'en servaient selon les vues de Dieu, la tâche des esprits serait facile pour faire avancer l'humanité. Malheureusement, beaucoup en font un instrument d'orgueil et de perdition pour eux-mêmes. L'homme abuse de son intelligence comme de toutes ses autres facultés, et cependant, les leçons ne lui manquent pas pour l'avertir qu'une main puissante peut lui retirer ce qu'elle lui a donné. Ferdinand, Esprit protecteur, Bordeaux, 1862.
New Spirit Belch nous rappelle que le spiritisme est une philosophie, un enseignement qui explique ce que nous sommes, d'où nous venons, vers où nous allons, comment faire pour y parvenir. Il explique également l'interaction qu'il y a entre les vivants, esprits incarnés que nous sommes, et le monde spirituel, esprit désincarné. Il enseigne l'amour du prochain et l'importance de la réforme intérieure pour aboutir à un monde meilleur, et ceci en suivant un processus de réincarnation. Le spiritisme n'impose rien et laisse à chacun la liberté et la responsabilité de ses actes. Bien que reçu par l'intermédiaire de médiums en contact avec les esprits évolués, le spiritisme n'a rien à voir avec la pratique médiuménique généralement répandue et utilisée à des fins matérielles, lucratives ou similaires. Il importe dès lors de bien faire la distinction entre spiritisme et médiuménisme, confusion qui malheureusement est largement répandue. On peut très bien être spirit sans être médium et inversement. Seule la médiumnité à des fins supérieures et moralement élevées est pratiquée dans le mouvement spirit digne de ce nom, et ceci bénévolement, pour venir en aide à notre prochain ou afin d'élargir ses connaissances. Au-delà de l'aspect philosophique, la mise en pratique du spiritisme est donc le plus bel exemple qu'il a bien été compris. C'est pourquoi l'Union Spirit Belge souhaite réaliser différents projets et soutenir les associations qui, de par leur activité, viennent en aide à leurs prochains et participent ainsi à la réalisation d'un monde meilleur. C'est dans cette optique que nous faisons appel à toutes les bonnes volontés, pour soit soutenir directement nos projets, soit soutenir les projets des associations que nous parrainons. Dans la rubrique « Projets », vous trouverez tous les détails des projets en cours ou à venir de l'Union Spirit Belge, ainsi qu'un ou des liens d'associations parrainées. Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. Que vous soyez manuel ou intellectuel, que vous ayez une heure par semaine ou plus, que ce soit régulièrement ou occasionnellement, vous pouvez nous aider. À cette fin, vous trouverez bientôt un formulaire électronique que vous pouvez remplir. En attendant, vous pouvez nous contacter via notre formulaire de contact que vous trouverez sur notre site à l'adresse suivante http://spiritsanss.be. Si par contre, vous ne disposez pas de temps libre, vous pouvez toujours nous apporter votre soutien via notre compte en précisant éventuellement le ou les projets que vous voulez soutenir. Pour rappel, le numéro de compte est BE 59 1420 6284 6426, Union Spirit Belge, 43 rue Maguin à 4000 Liège, Belgique. Merci de votre soutien. Nous voici arrivés à la séquence habituellement réservée à l'agenda des activités programmées en Belgique, au Grand-Duché de Luxembourg et en France. Malheureusement, une seule information nous est parvenue pour février. Elle nous vient de France. Nos sœurs et frères de l'Association parisienne d'études spirites organisent une conférence sur le thème « Les conflits existentiels expliqués par le spiritisme ». Elle aura lieu le samedi 26 février 2011 de 15h à 17h. Renseignements et inscriptions en formant depuis la France le 01 41 931 708 ou directement via le site de l'association à l'adresse suivante www.apes.asso.fr. Avis aux personnes et associations. Vous êtes responsable d'un groupe, d'une association ou simple particulier. Vous connaissez des personnes qui aimeraient en savoir plus sur la philosophie spirit. Vous avez un local, une pièce où vous pouvez nous en renseigner un. Si vous le souhaitez, nous pouvons venir faire une conférence de divulgation dans votre région afin de vous informer sur ce qu'est réellement la philosophie spirit et toutes les valeurs morales qu'elle renferme. Mieux encore, il n'y a pas de groupe spirit dans votre région. Vous avez envie d'en former un. Nous pouvons vous y aider en vous apportant un support didactique et humain pour la formation de celui-ci, même familial. Si vous êtes intéressé, vous pouvez nous contacter par courrier ou courriel à l'adresse suivante, Union Spirit Belge, 43 rue Maguin à 4000 Liège, ou par courriel usb@spirit.be. Cette émission se termine donc ici. Pour rappel, notre démarche est de mieux faire comprendre le spiritisme. Nous sommes donc à votre disposition pour répondre aux questions que vous vous posez ou que la lecture des ouvrages d'Allan Kardec vous suggère. Vous pouvez également poser ces questions par email, de manière tout à fait anonyme, si vous le souhaitez, à l'adresse radio@spirit.be. Nous y répondrons avec plaisir. Notre répondeur téléphonique, le 00 32 4 227 60 76, est également à votre disposition si vous souhaitez laisser vos questions. Si par contre vous préférez nous écrire, nous répondrons à vos demandes lors d'une de nos prochaines émissions. Vous pouvez nous envoyer votre courrier à l'attention du président de l'Union Spirit Belge, M. Jean-Paul Évrard, 43 rue Maguin à 4000 Liège, Belgique. Merci de votre attention et à bientôt.